Ensemble, ce matin, nous pouvons légitimement nous poser la question, Jean le Baptiste a-t-il connu dans sa prison l'épreuve du doute? En tout cas, celui que Jésus appelle le plus grand parmi ceux qui sont nés de la femme s'est profondément interrogé. Et il est important à ce moment-là de contextualiser. Tout d'abord, la question du Baptiste s'inscrit dans l'attente messianique. C'est ce que nous rappelle avec force la première lecture. La perspective messianique a animé le courage des Hébreux pendant des siècles. Or voici, nous l'avons entendu, qu'Isaïe présente cette espérance dans des circonstances particulières qu'il convient de resituer. Israël, la terre promise, a été envahie par le roi de Babylone, l'actuel Bagdad, et une grande partie de la population a été déportée en Mésopotamie. Et c'est donc au cœur de cette situation de misère absolue que le prophète se lève. Et observons bien, il ne prend pas la parole pour tenser, pour faire des reproches, pour expliquer la catastrophe en culpabilisant les uns et les autres. Non, il exhorte le peuple à l'espérance. Il crie de joie. Réécoutons son cri. Que le désert exulte, que le pays de la soif se réjouisse. Ici, l'affirmation est très forte. De même que la longue marche au désert conduisit dans la terre où coule en abondance le lait et le miel, de même, en ces jours d'exil, Israël peut encore faire confiance à l'Éternel, son Dieu. Un jour, oui, un jour, les exilés, dans une immense clameur de joie, entreront dans Jérusalem. Et frères et sœurs, ce qui est en jeu ce matin, ce sont parfois nos exils intérieurs. Alors surgit l'immense question, quand le Messie paraîtra-t-il? Et surtout, quelle allure aura-t-il? Sera-t-il un chef militaire, un roi, un prophète? Et voici que 5 siècles après Isaïe, là encore, dans des conditions dramatiques, l'occupation romaine, voici que l'antique prophétie est reprise, avec au sujet d'un jeune rabbin vivant à Capharnaüm, une lancinante interrogation résumée par Jean le Baptiste. Est-il celui qui doit venir? Et cette question, nous voyons, ne choque pas Jésus. Lui-même, nous le savons, invitera ses disciples à s'interroger. Il le fera en 2 temps. Premièrement, que dit-on de moi? Et deuxièmement, et vous? Que dites-vous? Qui dites-vous que je suis? Et ce matin, cette question, nous devons nous l'approprier. Au moment du credo, communautairement, nous affirmerons que Jésus est le Christ. Du reste, c'est tout le sens de notre présence ce matin. Bien sûr, nous le disons, nous le professons, nous le chantons même parfois. Et la grande question, comment vivons-nous cet acte de foi? Et est-ce qu'il exprime l'essentiel de notre vie? Et il ne faut ni s'étonner, ni avoir peur de ces questions, et ce, pour 2 raisons. Premièrement, lorsque l'Église est sortie des catacombes, les disputes christologiques furent très nombreuses. Il fallait répondre aux questions fondamentales suivantes. Qui est vraiment ce Jésus de Nazareth? Est-il un homme extraordinaire, mais simplement un homme? Ou est-il plus, c'est-à-dire le Messie, le Christ, le Fils de Dieu? Et nous le savons, ces débats ont traversé les siècles et se poursuivent encore aujourd'hui. Et le pape émérite Benoît XVI les a abordés dans ses ouvrages qui invitent à la synthèse entre le Jésus de l'histoire et le Jésus de la foi. Ouvrage passionnant. Et puis il y a ensuite l'itinéraire de chacune et de chacun d'entre eux. Bien sûr, nos parcours sont très différents, mais nous voyons bien que des événements de la vie nous provoquent à la réflexion. Et parfois, pour certains, la menace du doute peut parfois peser. Et ça n'est pas rien de songer à ces grands témoins qui ont eu la simplicité de rendre compte de ce qu'on appelle la nuit de la foi. Témoignage éminemment humble et réconfortant. Par exemple, Saint Jean de la Croix, qui dans son cantique spirituel écrira « Oui, je sais où est la source qui pourra me déterrer, mais c'est la nuit. » Sainte Thérèse de Lisieux, elle, écrira des phrases qui choquèrent à ce point les sœurs de sa communauté qu'elles les retireront des premières éditions de ses œuvres spirituelles. Il y a entre autres ces mots « Des pensées massailles telles que les pires matérialistes peuvent en avoir. » En fait, l'enjeu, c'est l'idée que nous nous faisons de Dieu. Toujours, nous avons à extirper l'image d'un Dieu qui fait marcher le monde à notre place et surtout dans le sens que nous voudrions. Or, pour répondre à la question de Jean le Baptiste, nous l'avons entendu, Jésus choisit dans l'écriture des textes qui parlent non pas de signes terrifiants, d'une force colossale qui pourrait littéralement nous clouer sur place, mais Jésus évoque des textes qui dresse le portrait d'un homme au service des lépreux, des boiteux, des malheureux. Voilà le vrai visage de Dieu. C'est ce que nous célébrerons ensemble la nuit de Noël. Dieu s'est fait visage humain, Dieu s'est fait vulnérable. De façon symboliquement très forte, le visage d'un enfant, le visage d'un crucifié. C'est le visage d'un amour absolu pour le service et le bonheur de tout homme. Alors brièvement ce matin, acceptons de nous interroger. Si tous ceux qui cherchent un sens à leur vie nous envoyaient, comme Jean le Baptiste, des messagers pour nous demander « Êtes-vous vraiment les témoins de l'évangile de Jésus-Christ ou devons-nous en attendre d'autres ?» pourrons-nous répondre en toute vérité « Venez et voyez ». Voyez, nous essayons, avec la grâce du Seigneur, d'être les humbles témoins de la joie et de l'espérance qui viennent de Dieu. Car l'évangile du Christ est la source de nos énergies au service de tous nos frères, en particulier les plus vulnérables.